France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet,
Claude Brouet, ancienne journaliste de mode.
Premier épisode, le par-dessus croisé en Shetland. Bonjour Claude Brouet.
Bonjour Caroline.
Alors je précise tout de suite pour nos auditeurs que nous ne sommes pas parentes. Malgré notre homonymie, votre nom à vous s'écrit E.T.
Oui.
Claude Brouet, vous avez été une des plus grandes journalistes de mode du XXe siècle. Vous avez côtoyé les plus grands créateurs, les plus grandes créatrices, lancé des photographes visionnaires, fait rêver des générations de femmes. Le couturier Jean-Paul Gaultier dit même de vous que vous êtes l'une des plus grandes dames de la mode du XXe siècle. Fichtre.
Oui, c'est beaucoup quand même.
Ah ben écoutez, on va voir que c'est vrai. Mais bon, journaliste, vous l'avez été au L et à Marie-Claire, à une époque où la presse féminine était au fait de son indépendance et de son influence, avant de diriger vous-même les collections femmes de la maison Hermès. Et je précise que vous êtes entrée au L en 1953, ce qui fait de vous une témoin à la fois précieuse et sans doute unique de cette histoire. Je dois aussi dire que c'est un peu difficile de se présenter devant vous. J'ai beaucoup hésité à savoir ce que j'allais mettre sur moi aujourd'hui, parce que vous êtes toujours d'une très grande élégance. Vous avez beaucoup, beaucoup d'allure. Je le dis parce que vous ne le direz pas vous-même. Cheveux roux flamboyants plaqués en arrière. Un gilet aujourd'hui, alors je dirais marron glacé, de très jolie facture, sur un t-shirt blanc qui a l'air impeccable. C'est toujours très important de bien s'habiller pour vous, toujours.
Ah oui, mais je m'habille toujours pareil maintenant. Généralement, mon uniforme, c'est ça. C'est un t-shirt blanc et un cardigan qui cache un peu la silhouette. Parce que j'ai passé l'âge de montrer mes bras. Donc voilà, c'est résolu.
Vous dites à l'âge que j'ai, est-ce que vous permettez qu'on donne votre âge ?
Eh bien oui, j'ai 96 ans bien sonnés. On va dire et demi, comme quand on était jeune.
Bah et vous, oui. Et vous êtes née dans la mode. C'est pour ça qu'il n'y a pas un moment où vous dites oh, « Bon, ça suffit maintenant de réfléchir à comment je m'habille. » Vous êtes née dans la mode.
Je suis née dans la mode, mais enfin, je ne réfléchissais pas à comment je m'habille quand j'étais jeune.
Est-ce que malgré tout, vous vous souvenez du premier vêtement que vous avez porté? J'ai intitulé ce premier épisode « Le par-dessus croisé en Shetland ».
Oui, mais bien sûr, parce que ma mère, je l'en remercie, a toujours eu le goût des choses simples pour m'habiller. Et il se trouve que j'ai été élevée avec le fils d'amis intimes de mes parents, qui avait 3 ans de plus que moi, et qu'on se considérait comme frères et sœurs. Et nous allions ensemble, tous les deux, alors, à la Samaritaine de Luxe. La Samaritaine de Luxe, c'était boulevard de la Madeleine, ou ça s'appelle boulevard des Capucines, je crois, à cet endroit-là.
À Paris ?
À Paris, à peu près, en face de Old England, qui n'existe plus, enfin, je pense, là, maintenant. Enfin, bref. Samaritaine de Luxe. Et là, il y avait un rayon de sur-mesure de vêtements pour enfants. Donc, on allait tous les deux. Je me souviens même du nom du tailleur, Monsieur Loistron. Et il nous faisait tous les 2 ans, car on le mettait 2 ans, un par-dessus croisé, le même modèle. Peut-être pas forcément dans la même couleur, mais enfin, c'était toujours ou beige ou bleu marine. Enfin, voilà. Hein. Je crois qu'une année, ça a été marron pour moi. Mais enfin, le bleu marine étant de loin le mieux. Et j'ai mis ça toute ma jeunesse jusqu'à la guerre.
Nous disions que vous étiez tombée dans la mode, née dans la mode. Je dirais même tombée dedans quand vous étiez toute petite, parce que, outre ce par-dessus croisé en Shetland, fait sur mesure, votre mère, Gilberte, quand vous êtes née, était première vendeuse chez Chanel.
C'est ça.
Et en 1932, elle est rentrée comme directrice de couture chez Schiaparelli.
Oui,
alors, Schiaparelli, c'était le nom d'une créatrice de mode italienne très connue à l'époque.
Mais qui n'était pas encore connue. Quand ma mère y est allée, elle était encore sous les toits, rue de la Paix. Et maman commençait à en avoir un petit peu assez de vendre un peu toujours la même chose chez Chanel. Et ça l'a beaucoup excité d'aller chez cette jeune Italienne qui avait...
quelque chose.
Qui avait, oui, vraiment quelque chose. Et très vite, la maison s'est installée Place Vendôme. Et voilà, donc moi j'ai passé beaucoup de temps de mon enfance, adolescence, dans les salons de Schiaparelli, enfin beaucoup de temps, n'exagérons rien, hein. Mais enfin, j'allais rendre visite à ma mère, quand j'étais plus grande j'allais la chercher, on allait boire un verre toutes les deux avant de rentrer à la maison, enfin... Oui, j'étais tout à fait à mon aise là-bas, amie avec les vendeuses, dont beaucoup étaient des princesses russes, émigrées.
Si bien que vous diriez que c'est votre mère qui vous a appris l'élégance.
Eh bien, sans doute. En tout cas, ma mère m'a habillée toujours avec une rigueur dont jamais je n'ai trouvé à redire, sauf à un moment. J'étais déjà plus grande, genre 7-8 ans, et je voyais les autres petites filles. J'ai peut-être un jour dit que mes petites camarades avaient toutes un petit manteau en lainage avec un col de velours, mais enfin, je n'ai pas du tout insisté pour en avoir un. Le mot « confection » était assez péjoratif chez nous, en tout cas. La confection, c'était pour les gens qui n'ont pas ou le savoir-faire pour faire leurs vêtements eux-mêmes, ou même les moyens d'avoir une couturière, parce que c'était très bien de les faire chez une couturière, bien entendu que tout le monde ne pouvait pas aller dans la couture. Mais la plupart des femmes, beaucoup savaient coudre, c'est la raison pour laquelle les patrons et les journaux de patrons se vendaient énormément à l'époque. Et les femmes qui n'étaient pas capables de le faire elles-mêmes avaient une petite couturière, une couturière. Et la confection, elle avait, en tout cas dans le milieu où j'ai été élevée, ça avait un petit côté péjoratif. Si bien que, quand j'ai commencé à travailler, une fois, je suis allée aux Galeries Lafayette et je vois un imperméable rouge en popeline, très classique, raglan. Et je me le suis acheté, il était très bon marché, et très bien, et je suis revenue, j'ai montré à maman, et bien je me suis acheté un manteau de confection aux Galeries Lafayette, un impair. Mais il était très bien, c'était un raglan boutonnage sous patte en popeline rouge, ça ne faisait de mal à personne.
Mais... Et elle n'a pas apprécié ?
Mais si, bien sûr, elle a ri, elle dit mais c'est très bien, il te va très bien, il est très bien. Bien sûr, elle n'était pas du tout...
Et votre père, Claude Brouet ?
Mon père était décorateur. Il avait fait l'école Boulle. Il savait tout faire de ses mains. On avait un atelier à la campagne. Il savait travailler absolument toutes les matières.
Il était bricoleur, il était dessinateur.
Ah oui, 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 oui. Il dessinait, il peignait, mais enfin, c'est pas avec ça qu'il gagnait sa vie. C'était avec la décoration. Il a eu un magasin de décoration juste avant la guerre. Et il commençait à faire des décors et des costumes de films, des décors plutôt que des costumes. Et malheureusement, y a eu un film qui s'est tourné, que personne ne connaît et qui n'est pas un chef-d'œuvre, il faut bien le dire, qui s'appelle Yamilé sous les cèdres. Et il était en train, quand la guerre s'est déclarée, j'ai les maquettes en bas, il était en train de faire les décors pour un film avec Charles Boyer qui devait s'appeler Le Corsaire.
Et qui n'est jamais sorti.
Ben non, qui ne s'est jamais tourné. Et après, il a fait, après ses 7 ans de guerre de 14, qu'il a terminé dans les Balkans comme volontaire, il a fait la guerre et il a été prisonnier. Donc,
en 1940, il est prisonnier
Il est prisonnier, il a été rapatrié en 42 comme ancien combattant. Mais avec toute son énergie... parti. Donc il a continué à faire des petits travaux de décoration pour des clients particuliers.
Vous, Claude Brouet, vous aviez donc 10 ans quand la guerre a été déclarée en 1939. Vous traversez cette guerre en pleine adolescence. De quoi vous vous souvenez ?
Oh, je me souviens d'énormément de choses. D'abord, on m'a envoyé avec mon ami d'enfance, celui qui battait les mêmes petits manteaux que moi, sauf un plus grand, on nous a envoyés en province. Parce que mon père avait peur que Paris soit bombardé. Il a installé mes grands-parents dans notre maison de campagne près de Paris. Il avait très peur de tout ça. Et donc, moi, je me suis trouvée séparée de mes parents, de ma mère qui était restée jusqu'à Paris-Lille, de mon père qui était mobilisé, qui n'a eu qu'une seule permission, qui n'a même pas pu venir. J'ai fait ma communion cette année-là, il n'a même pas pu venir. Et il a été fait prisonnier tout de suite en juin 1940. Voilà.
Et donc, après cette année que vous passez chez des amis, à Avallon, c'est ça ?
À Avallon.
À Avallon. Vous revenez à Paris. Paris, à ce moment-là, est sous l'occupation.
Oui.
Vous voyez des Allemands dans Paris tout le temps. Comment se passe la vie pour vous ?
Avec un dégoût, je ne peux pas dire. Un dégoût, quand même, de les voir. De voir ces uniformes verts. Mais bon. La vie se passe, je n'ai pas le droit de me plaindre. Hein. La vie se passe normalement. Je vais dans un cours très bien, pas loin de chez moi. J'y vais toute seule. C'est plus la petite fille qu'on emmène à l'école en la tenant par la main. Et ça va à peu près jusqu'à ce que... Il commence à y avoir des arrestations de juifs, et il y avait pas mal de petites filles juives dans mon cours. Et là, j'ai commencé à trouver ça vraiment terrible, et elles n'avaient pas le droit, elles avaient donc une étoile jaune à porter, elles n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, d'aller dans des endroits publics, elles ne pouvaient absolument pas se distraire. Alors on organisait des goûters le jeudi, chez l'une de nous, pour être ensemble et pas dans un lieu public. Et puis, petit à petit, étant donné que tout ça, j'étais dans un cours assez haut de gamme, disons, que toutes ces familles ont eu les moyens de s'expatrier et sont, sauf une, toute partie. Et je les ai retrouvées après la guerre.
Elles ont été sauvées ?
Oui. Pendant l'occupation, nous n'avions le droit d'aller à aucun bord de mer. Hein. Toutes les plages étaient bloquées, il y avait des bunkers et les bords de mer n'étaient absolument pas autorisés. Donc j'ai passé toutes mes vacances de Noël, de Pâques, de ceci, de cela et d'été dans cette maison de campagne avec mes grands-parents, ma tante et mes parents quand ils venaient le week-end ou quand ils venaient pour 15 jours ou 3 semaines l'été. Donc j'ai passé tout le temps là. Et la mer, les bains, tout ça, non. Alors... J'avais des amis un petit peu loin, j'allais à pied, mais ma tante, qui était quand même un petit peu, c'était ma marraine aussi, un peu dure, me disait « Mais tu es là pour voir tes grands-parents, tu ne vas pas aller tous les jours là-bas chez tes amis. » Donc, j'ai été obligée de rester certains après-midi entiers à la maison. Donc, j'ai pris les magazines qui étaient dans une armoire dans l'atelier de mon père, parce qu'on gardait tout à la maison. Alors, il y avait des vieux Marie-Claire.
Oui, Marie-Claire a été créée en 1937.
Donc oui, certainement quelqu'un, moi peut-être maman ou la jeune fille qui m'accompagnait prenait pour prendre le train. Mes parents n'avaient pas de voiture à ce moment-là. Prenait Marie-Claire. Donc, il y avait plein de Marie-Claire. C'est comme ça que j'ai vu cet article, ça m'amuse parce que là je suis en train de lire une vie d'Hélène Lazareff. Dont on va beaucoup parler par la suite. Et je me souviens de cet article, j'ai vécu 24 heures avec Barbara, jeune fille américaine, par Hélène Gordon. Je me souviens de ça. Je me souviens, et puis je les connaissais par cœur en réalité. Tous ces magazines, je les avais feuilletés je ne sais pas combien de fois.
Après, c'est la libération ?
Mais c'est le plus beau jour de ma vie, je ne pourrais jamais l'oublier. Nous étions...
J'avais 15 ans. 14-15.
Oui. Nous étions dans le haut des Champs-Élysées, mon père, ma mère et moi. Et on a vu monter le général de Gaulle. dans l'avenue des Champs-Élysées. C'était une chose insensée. Derrière, il y avait des chars américains. Alors après, c'était envahi de jeunes filles qui allaient embrasser les soldats. Enfin, c'était incroyable. Incroyable. Mais c'est là que j'ai vu, oui, ça c'était quand même pas tellement... Il y avait des cadavres de soldats allemands en place de l'Étoile, enfin... Parce qu'on est rentré de la campagne une dizaine de jours avant la libération. On était à la campagne et on est rentré, on a pris le dernier train.
La campagne, vous y alliez de toute façon beaucoup
tout le parce temps, que tout le temps.
Vos grands-parents paternels étaient dans cette maison.
Oui, mon père les avait installés.
Vous avez beaucoup de souvenirs là-bas.
Beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses. Sur la nature, les animaux, les champignons, les plantes. J'aime beaucoup ça, j'adore la nature.
Vous disiez, Claude Brouet, que pendant ces années d'occupation, vous n'aviez pas le droit d'aller à la mer, vous n'aviez pas le droit d'aller très loin. En revanche, après la guerre, là vous êtes allé à la mer, et c'est à Villefranche-sur-Mer que vous faites la rencontre d'un certain Pierre Cardin.
Exactement.
En 1946, qui fera le premier tailleur de la future Maison Dior en 1947.
Oui, exactement.
Le fameux tailleur bar.
Voilà.
Grande rencontre, quand même. Pour
Grande rencontre, parce que c'est une amitié qui n'a jamais cessé. Et donc, à l'époque, Pierre Cardin vivait avec Marcel Escoffier, qui était un grand costumier. C'est lui qui avait fait les costumes de Senso. Ça, vous l'avez vu, Senso de Visconti. Non, c'est Marcel qui avait fait les costumes. Enfin, c'était de haut vol. Et il venait d'exécuter, pas de dessiner, les costumes de La Belle et la Bête. Marcel Escoffier et Pierre, à coudre, il venait de faire ça. Et Pierre venait d'être engagé comme premier tailleur dans une maison qu'allait ouvrir M. Christian Dior, avenue Montaigne. Voilà. Et donc, j'ai demandé, j'ai dit à maman, tu vas, qu'il y avait des amis un peu dans toutes les maisons de couture. Et j'ai dit, je voudrais absolument voir la collection Christian Dior. Voilà. Et donc, je suis allée voir et j'ai vu toutes les collections de Dior comme ça. Alors que j'étais pas du tout, j'étais pas encore ni journaliste ni rien.
En particulier, vous voyez, vous êtes là pour vous assister à 17 ans à la première collection de Christian Dior qui s'appelle le New Look.
Oui.
Et le New Look, ça a vraiment révolutionné les choses. Alors, ce qui est drôle,
vous
allez nous dire pourquoi, en quoi, qu'est-ce que c'était le New Look et en quoi ça a révolutionné les choses, mais pas forcément selon votre goût, on va dire.
Non, bien sûr. C'est-à-dire que tout à coup, après la mode, on la voit, la mode des années 40, que moi je trouvais très bien, je me souviens qu'avant Christian Dior, je disais à maman, après tout, la mode actuelle, elle est bien. Les femmes sont bien. On regarde la longueur, le corps, on le voit.
C'était quoi la longueur ?
Sous le genou. Bah oui, ma chérie, mais tu sais, la mode, ça change. C'est ce qui fait que c'est la mode. Voilà, bon, enfin, bref, un an avant, j'avais dit, c'est très bien. Et ce New Look, mais ça a été une catastrophe. Alors, je ne parle pas de mon côté personnel, où je me suis fait des jupes. J'ai fait rétrécir des jupes tellement serrées que j'avais les agrafes qui me rentraient dans la peau.
Parce que
c'était la taille à 48 cm.
Ultra serrée, une taille de guêpe.
Ultra serrée, des jupes larges, tout ce qu'on n'avait pas eu, donc il fallait du tissu. Alors, je vous passe... Ce que ça a donné dans la rue, parce que tout le monde n'avait pas les moyens de se faire des vêtements nouveaux. Alors, je te rajoute des bandes pour rallonger des choses, enfin, des bricolages abominables. C'était quand même très moche. La rue était moche.
Mais vous dites plus que ça, parce que vous dites que c'est même une régression pour la femme.
Eh ben oui, puisque c'est une contrainte totale. Le bustier, alors, sur le moment, moi je n'ai pas eu les vêtements en main, mais dès que j'ai été journaliste, je les ai eus en main. Les vêtements Dior de l'époque, ça pèse 3 tonnes. C'est entièrement armé à l'intérieur. D'ailleurs, c'est dans les livres sur Christian Dior. C'est tout fait, le corps est moulé dans le vêtement.
Malgré tout, c'est un pionnier, Christian Dior.
Eh ben oui, bien sûr, puisque ça a fait le tour du monde.
C'est lui qui a fait du pied de poule aussi.
Ah oui, ça c'est vrai. C'était le nom de son chien, le tailleur. Voilà que je vais avoir oublié le nom du chien. Bobby. Le tailleur Bobby, c'était toujours un tailleur pied de poule.
Et c'est lui qui a dicté la longueur à adopter. Donc c'est
alors,
vraiment, ça a
un c'est les journaux qui lui demandaient, parce qu'il a fait cette longueur qui était assez frappante, puisque ça rallongeait nettement, vraiment très fort. Et après, les ourlets, ça jouait comme ça, jusqu'à ce qu'on revienne à la fin des années 50 à une silhouette plus simple et sous le genou, qui personnellement j'ai préféré, mais ça c'est pas une question de préférence personnelle. Et alors c'était tous les ans, tous les journaux, il y avait la photo de Christian Dior avec un mètre. Voilà, la longueur cette année c'est 30 cm du sol, c'était totalement ridicule, mais bon.
Jusqu'en 1957, puisqu'il meurt en 1957.
Ah, oui, bien sûr, mais après c'est moins important. Après, il y a d'autres qui se passent.
Qui ont pris le relais.
Il ne fait pas une révolution chaque année jusqu'en 1957. Hein.
Le New Look reste le New Look. Le New et Look c'est vraiment la révolution de Christian Dior.
Absolument.
Alors vous, dans tout ça, Claude Brouet, vous allez pour étudier la philosophie. Quand dans une fête, une surprise partie, vous disiez à l'époque, comment vous disiez à l'époque?
Oui, une surprise partie.
Vous rencontrez celui qui va devenir votre premier mari?
Oui.
Jean-Pierre Brouet.
Et il se trouve qu'on était voisins, mais on ne le savait pas, on ne s'était jamais rencontrés. On habitait, eux, au 91 et moi au 93 de la même rue. Donc vous voyez que... on ne peut pas faire plus près. Et son père, étant donné qu'il était étudiant en médecine, son père a dit qu'il nous donnerait tant d'argent chaque mois. Et moi, j'ai dit, ben moi, maintenant, je veux travailler, je veux apporter la même chose. Et je ne voulais pas, surtout pas, que mes parents me le donnent. Il fallait que ce soit moi qui l'apporte. Et maman, qui venait d'entrer chez FAT, il avait dû demander de mes nouvelles ou je ne sais pas quoi. Et elle avait dû dire, oui, ben elle va se marier, je pense qu'il va falloir qu'elle travaille. Ah, mais envoyez-la moi je la prends au studio. Et puis, ben on verra, c'est aucun problème. Donc, j'étais assurée d'avoir un travail. Je ne sais pas si j'avais envie de travailler dans un studio de création de mode, mais qu'importe. Et voilà que ma curiosité... est éveillée parce que j'entends qu'il va y avoir un grand bal dans le Palais Rose, qui était le palais de Bonnie de Castellane, sur l'avenue Foch. Alors j'ai dit à ma mère, écoute, est-ce que tu crois que tu peux me faire inviter? J'aimerais quand même énormément aller à ce bal. Bon, je vais voir ce que je peux faire, ma chérie. Bon. Et elle s'adresse à Miri Fenwick, qui occupait à Marie-Claire le poste que j'ai occupé après, c'est-à-dire qui était rédactrice en chef de toute la partie centrale du journal, et qui lui dit, mais oui, bien sûr, je vais la faire passer, j'y vais avec mon neveu qui est photographe, et je vais la faire passer pour l'assistante du photographe, c'est parfait. Et me voilà partie chez les Fenwick pour qu'on arrive tous ensemble là-bas. Et j'ai dit, maintenant, vous me dites exactement quel est mon travail. Eh bien alors, vous notez... les personnes qu'il photographie, d'où vient la robe, etc. Et j'ai fait ça. Et comme je connaissais le carnet de Vogue, toutes ces dames, je les connaissais presque toutes de vue, en photo. Et 5-6 jours après, je reçois un coup de fil de Philippe Fenwick, le mari de Mary Fenwick, qui me dit, est-ce que vous viendriez demain samedi regarder les photos avec Jurek, c'était le photographe, et moi, parce qu'on est un peu perdus. Donc j'arrive, ils étaient à quatre pattes par terre, avec toutes les photos étalées par terre. Je me suis mise aussi à quatre pattes par terre. Et puis j'ai retrouvé chaque fois, ça c'était Madame Machin, dans une robe de trucmuche. Bon. Alors voilà que Philippe Fenwick me dit, « Oh mais moi, je vous trouve épatante, qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais bien que vous travailliez avec moi. » Ah ben, j'ai dit, en principe, je crois que je vais entrer dans le studio de Jacques Fatt. Je ne sais pas ce que j'y ferai exactement. Ah, mais vous ne voulez pas venir me voir à mon bureau? Il me donne un rendez-vous à son bureau. Je vais au rendez-vous. Et, ah oui, j'avais fait. Nous avions des amis en Belgique et ils avaient des amis à eux qui avaient une revue automobile. Et pendant 2-3 ans, j'ai fait des petits papiers où on arrivait à parler de la mode de Paris à travers une mode sport, des voyages, des choses comme ça. Donc je suis allée au rendez-vous avec mes petits articles sous le bras. Il m'a pris, il a téléphoné devant moi à Monsieur Ponchon, qui avait des éditions que je ne connaissais pas. Et voilà, j'ai une jeune fille dans mon bureau. Je pense qu'elle serait très bien pour vous. Vous m'avez dit que vous cherchez quelqu'un. Et il me prend un rendez-vous. Donc je rentre chez mes parents en disant, voilà, bah, j'ai un rendez-vous pour peut-être entrer dans un journal. Bon, très bien, je vais au rendez-vous chez Monsieur Ponchon qui m'engage. Bah, j'ai dit oui tout de suite. Et je suis rentrée, j'ai dit à maman, tu diras à Monsieur Fat que je le remercie beaucoup, mais je vais dans un journal. On était trois pour faire le magazine, donc j'ai appris à tout faire.
C'était quoi, Vive la mode ?
Oh, un petit journal, une maison d'édition, les éditions Ponchon. Il y avait un magazine dit de luxe, hein, qui se prétendait concurrentiel avec l'Officiel et autres, qui s'appelait Silhouette. Il y avait un journal avec exclusivement des choses à faire soi-même qui s'appelait Couture. Et il y avait un petit magazine qui s'appelait Vive la mode. Quel nom ? Qui est celui dont je me suis occupée, qui montrait des croquis de mode, des petits reportages, tout ça vaguement autour de la mode, un tout petit peu de cuisine, ça m'a amusée à faire. Bon, s'il n'y avait pas un vrai concept, hein, c'était pas grand-chose, mais bon.
Et votre œil est un peu ailleurs quand même, parce qu'à ce moment-là, en même temps, hein, aux États-Unis, il y a le Harper's Bazaar.
Ah ben, c'est quand je suis arrivée aux éditions Ponchon et que j'ai vu le bazar, je suis tombée, mais alors, raide d'admiration devant le travail de Brodovitch.
Qui était le directeur artistique. Et les photos de Richard Avedon.
Oh oui, mais surtout son travail à lui, ça j'ai trouvé. D'ailleurs, bon, on va pas parler de lui, on l'a laissé tomber comme une vieille chaussette.
Et puis de l'autre côté, il y a le Vogue, avec les photos d'Irving Penn.
Oui, bien sûr, mais j'ai été subjuguée. Non, mais
c'était surtout
bien.
La découverte
des magazines américains m'a beaucoup apporté. Même les magazines de plus grande diffusion, parce que c'était tellement vivant. Non, ça m'a énormément apporté. Alors, le Vogue était très bien aussi, je ne vais pas. Mais j'ai eu ce coup de cœur pour le travail de Brodovitch.
En tout cas, Claude Brouet, vous restez à Vive la mode pendant 3 ans jusqu'en 1953. En 1953, vous rencontrez Hélène Lazareff. À part votre mère, vous êtes embauchée au Elle et c'est ce que vous nous raconterez dans l'épisode suivant, l'épisode 2. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
À suivre l'épisode 2, 100 rue Réaumur. C'était À Voix Nue avec Claude Brouet. Réalisation Guillaume Baldi, prise de son Benjamin Perru, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.